Les frères Karamazov, livre 5, chapitre 6, où l'obscurité règne encore. De son côté, après avoir quitté Alyosha, Ivan Fiodorovitch se rendit chez son père. Chose étrange, il éprouva tout à coup une anxiété intolérable qui grandissait à mesure qu'il approchait de la maison. Ce n'était pas la sensation qui l'étonnait, mais l'impossibilité de la définir. Il connaissait l'anxiété par expérience et n'était pas surpris de la ressentir au moment où, après avoir rompu avec tout ce qui le retenait en ces lieux, il allait s'engager dans une voie nouvelle et inconnue, toujours aussi solitaire, plein d'espoir, sans objet, de confiance excessive dans la vie, mais incapable de préciser son attente et ses espérances. Mais, en cet instant, bien qu'il appréhendât l'inconnu, ce n'était point ce qui le tourmentait. Ne serait-ce pas le dégoût de la maison paternelle ? Pensait-il. On le dirait vraiment tant elle me répugne, bien que j'en franchisse aujourd'hui le seuil pour la dernière fois. Mais non, ce n'est pas ça. Ce sont peut-être les adieux avec Alyosha après notre entretien. Je me suis tue si longtemps sans daigner parler, et voilà que j'accumule tant d'absurdités. En réalité, ce pouvait être le dépit de l'inexpérience et de la vanité juvénile, dépit de n'avoir pas révélé sa pensée, surtout avec un être tel qu'Alyosha, dont il attendait certainement beaucoup dans son fort intérieur. Sans doute ce dépit existait, c'était fatal, mais il y avait autre chose. Être anxieux jusqu'à la nausée et ne pouvoir préciser ce que je veux. Ne pas penser, peut-être. Ivan Fiodorovitch essaya de ne pas penser, mais rien n'y fit. Ce qui l'irritait surtout, c'est que cette anxiété avait une cause fortuite, extérieure, il le sentait. Un être ou un objet l'obsédait vaguement, de même qu'on a parfois devant les yeux, sans s'en rendre compte, durant un travail ou une conversation animée, quelque chose qui vous irrite jusqu'à la souffrance, jusqu'à ce que l'idée vous vienne enfin d'écarter l'objet fâcheux, souvent une bagatelle, une chose qui n'était pas en place, un mouchoir tombé à terre, un livre non rangé, etc. Ivan, de fort méchante humeur, arriva à la maison paternelle. À 15 pas de la porte, il leva les yeux et devina tout d'un coup le motif de son trouble. Assis sur un banc, près de la porte cochère, le valet Smerdiakov prenait le frais. Au premier regard, Ivan comprit que ce Smerdiakov lui pesait et que son âme ne pouvait le supporter. Ce fut comme un trait de lumière. Tantôt, tandis qu'Alyosha lui racontait sa rencontre avec Smerdiakov, il avait ressenti une morne répulsion et, par contre-coup, de l'animosité. Ensuite, durant la conversation, il n'y songea plus, mais dès qu'il se retrouva seul, la sensation oubliée émergea de l'inconscient. Est-il possible que ce misérable m'inquiète à ce point ? Pensait-il, exaspéré. En effet, depuis peu, surtout les derniers jours, Ivan Fiodorovitch avait pris cet homme en aversion. Lui-même avait fini par remarquer cette antipathie grandissante. Ce qui l'aggravait peut-être, c'est qu'au début de son séjour parmi nous, Ivan Fiodorovitch éprouvait pour Smerdiakov une sorte de sympathie. Il l'avait trouvé d'abord très original et conversait habituellement avec lui, tout en le jugeant un peu borné, ou plutôt inquiet, et sans comprendre ce qui pouvait bien tourmenter constamment ce « contemplateur ». Il s'entretenait aussi de questions philosophiques, se demandant même pourquoi la lumière luisait le premier jour, alors que le soleil, la lune et les étoiles n'avaient été créés que le quatrième, et cherchant une solution à ce problème. Mais bientôt Ivan Fiodorovitch se convainquit que Smerdiakov s'intéressait médiocrement aux astres et qu'il lui fallait autre chose. Il manifestait un amour-propre excessif et offensé. Cela déplut fort à Ivan et engendra son aversion. Plus tard, survinrent des incidents fâcheux, l'apparition de Krouchenka, les démêlés de Dmitri avec son père. Il y eut des tracas. Bien que Smerdiakov en parlât toujours avec agitation, on ne pouvait jamais savoir ce qu'il désirait pour lui-même. Certains de ses désirs, quand il les formulait involontairement, frappaient par leur incohérence. C'étaient constamment des questions, des allusions qu'il n'expliquait pas, s'interrompant ou parlant d'autre chose au moment le plus animé. Mais ce qui exaspérait Ivan et avait achevé de lui rendre Smerdiakov antipathique, c'était la familiarité choquante que celui-ci lui témoignait de plus en plus. Non qu'il fût impoli, au contraire. Mais Smerdiakov en était venu, Dieu sait pourquoi, à se croire solidaire d'Ivan Fiodorovitch, s'exprimait toujours comme s'il existait entre eux une entente secrète connue d'eux seuls et incompréhensible à leur entourage. Ivan Fiodorovitch fut longtemps à comprendre la cause de sa répulsion croissante et ne s'en était rendu compte que tout dernièrement. Il voulait passer, irrité et dédaigneux, sans rien dire à Smerdiakov. Mais celui-ci se leva, et ce geste révéla à Ivan Fiodorovitch son désir de lui parler en particulier. Il le regarda et s'arrêta, et le fait d'agir ainsi, au lieu de passer outre comme il en avait l'intention, le bouleversa. Il considérait avec colère et répulsion cette figure d'eunuque, aux cheveux ramenés sur les tempes, avec une mèche qui se dressait. L'œil gauche clignait malicieusement comme pour lui dire « Tu ne passeras pas, tu vois bien que nous autres, gens d'esprit, nous avons à causer. » Ivan Fiodorovitch en frémit. « Arrière, misérable! Qu'y a-t-il de commun entre nous, imbécile ? » voulut-il s'écrier. Mais au lieu de cette algarade, et à son grand étonnement, il proféra tout autre chose. « Mon père dort-il encore ? » demanda-t-il d'un ton résigné, et, sans y penser, il s'assit sur le banc. Un instant, il eut presque peur. Il se le rappela après coup. Smerdiakov, debout devant lui, les mains derrière le dos, le regardait avec assurance, presque avec sérénité. « Il repose encore, » dit-il sans se presser. « C'est lui qui m'a adressé le premier la parole. »« Vous m'étonnez, monsieur, » ajouta-t-il après un silence, les yeux baissés avec affectation, en jouant du bout de sa bottine vernie, le pied droit en avant. « Qu'est-ce qui t'étonne ?» demanda sèchement Ivan Fiodorovitch, s'efforçant de se contenir, mais écœuré de ressentir une vive curiosité qu'il voulait satisfaire à tout prix. « Pourquoi n'allez-vous pas à Tchermachnia ?» demanda Smerdiakov avec un sourire familier. « Tu dois comprendre mon sourire si tu es un homme d'esprit, » semblait dire son œil gauche. « Qu'irai-je faire à Tchermachnia ?» s'étonna Ivan Fiodorovitch. Il y eut un silence. « Fiodor Pavlovitch vous en a instamment prié, » dit-il enfin sans se presser, comme s'il n'attachait aucune importance à sa réponse. « Je t'indique un motif de troisième ordre, uniquement pour dire quelque chose. « Eh, diable, parle plus clairement! Que veux-tu ? » s'écria Ivan Fiodorovitch, que la colère rendait grossier. Smerdiakov ramena son pied droit vers la gauche, se redressa, toujours avec le même sourire flegmatique. « Rien de sérieux, c'était pour dire quelque chose. » Nouveau silence. Ivan Fiodorovitch comprenait qu'il aurait dû se lever, se fâcher. Smerdiakov se tenait devant lui et semblait attendre. « Voyons, te fâcheras-tu ou non ?» Il en avait du moins l'impression. Enfin, il fit un mouvement pour se lever. Smerdiakov saisit l'instant. « Une terrible situation que la mienne, Ivan Fiodorovitch. Je ne sais comment me tirer d'affaire, » dit-il d'un ton ferme. Après quoi il soupira. Ivan se rassit. « Tous deux ont perdu la tête. On dirait des enfants. Je parle de votre père et de votre frère, Dmitri Fiodorovitch. Tout à l'heure, Fiodor Pavlovitch va se lever et me demander à chaque instant, jusqu'à minuit et même après, pourquoi n'est-elle pas venue? Si Agrafena Alexandrovna ne vient pas, je crois qu'elle n'en a pas du tout l'intention. Il s'en prendra encore à moi demain matin. Pourquoi n'est-elle pas venue? Quand viendra-t-elle? Comme si c'était ma faute. De l'autre côté, c'est la même histoire. À la nuit tombante, parfois avant, votre frère survient, armé. Prends garde, coquin, Gatsos, si tu la laisses passer sans me prévenir, je te tuerai le premier. Le matin, il me tourmente, comme Fiodor Pavlovitch, si bien que je parais aussi responsable devant lui de ce que sa dame n'est pas venue. Leur colère grandit tous les jours, au point que je songe parfois à m'ôter la vie, tellement j'ai peur. Je n'attends rien de bon. Pourquoi t'es-tu mêlé de ça? Pourquoi es-tu devenu l'espion de Dmitri? Mais comment faire autrement? D'ailleurs, je ne me suis mêlé de rien, si vous voulez le savoir. Au début, je me taisais, n'osant répliquer. Il a fait de moi son serviteur. Depuis, ce sont des menaces continuelles. Je te tuerai, coquin, si tu la laisses passer. Je suis sûr, monsieur, d'avoir demain une longue crise. Quelle crise? Mais une longue crise. Elle durera plusieurs heures. Un jour ou deux, peut-être. Une fois, elle a duré 3 jours, où je suis resté sans connaissance. J'étais tombé du grenier. Fiodor Pavlovitch envoya chercher Erzenstube, qui prescrivit de la glace sur le crâne, puis un autre remède. J'ai failli mourir. Mais on dit qu'il est impossible de prévoir les crises d'épilepsie. D'où peux-tu savoir que ce sera demain? Demanda Ivan Fiodorovitch avec une curiosité où il entrait de la colère. C'est vrai. De plus, tu étais tombé du grenier cette fois-là. Je peux en tomber demain, car j'y monte tous les jours. Si ce n'est pas au grenier, je tomberai à la cave. J'y descends aussi chaque jour. Ivan le considéra longuement. Tu manigances quelque chose que je ne comprends pas bien, fit-il à voix basse mais d'un air menaçant. N'as-tu pas l'intention de simuler une crise pour 3 jours? Si je pouvais simuler! Ce n'est qu'un jeu quand on en a l'expérience. J'aurais pleinement le droit de recourir à ce moyen pour sauver ma vie. Car lorsque je suis dans cet état, même si Agrafena Alexandrovna venait, votre frère ne pourrait pas demander des comptes à un malade. Il aurait honte. Eh, diable! S'écria Ivan Fiodorovitch, les traits contractés par la colère. Qu'as-tu à craindre toujours pour ta vie? Les menaces de Dmitri sont les propos d'un homme furibond, rien de plus. Il tuera quelqu'un, mais pas toi. Il me tuerait comme une mouche, moi le premier. Je crains davantage de passer pour son complice s'il attaquait follement son père. Pourquoi t'accuserait-on de complicité? Parce que je lui ai révélé en secret les signaux. Quels signaux? Que le diable t'emporte, parle clairement. Je dois avouer, traîna Smerdiakov d'un air doctoral, que nous avons un secret, Fiodor Pavlovitch et moi. Vous savez sans doute que depuis quelques jours, il se verrouille sitôt la nuit venue. Ces temps, vous rentrez de bonne heure, vous montez tout de suite chez vous, même vous n'êtes pas sorti du tout. Aussi, vous ignorez peut-être avec quel soin il se barricade. Si Grigori Vassilievitch venait, il ne lui ouvrirait qu'en reconnaissant sa voix. Mais Grigori Vassilievitch ne vient pas, parce que maintenant je suis seule à son service dans ses appartements. Il en a décidé ainsi depuis cette intrigue avec Agrafena Alexandrovna. D'après ses instructions, je passe la nuit dans le pavillon. Jusqu'à minuit, je dois monter la garde, surveiller la cour au cas où elle viendrait. Depuis quelques jours, la tante le rend fou. Il raisonne ainsi. On dit qu'elle a peur de lui, de Dmitri Fiodorovitch, s'entend. Donc elle viendra la nuit par la cour. Guette-la jusqu'à minuit passé. Dès qu'elle sera là, cours frapper à la porte ou à la fenêtre dans le jardin. 2 fois, doucement, comme ça. Puis 3 fois plus vite. Toc, toc, toc. Alors je comprendrai que c'est elle et t'ouvrirai doucement la porte. Il m'a donné un autre signal pour les cas extraordinaires. D'abord 2 coups vite, toc toc, puis après un intervalle, 1 fois fort. Il comprendra qu'il y a du nouveau et m'ouvrira. Je ferai mon rapport. Cela au cas où l'on viendrait de la part d'Agrafena Alexandrovna, ou si Dmitri Fiodorovitch survenait, afin de signaler son approche. Il a très peur de lui. Et même s'il était enfermé avec sa belle et que l'autre arrive, je suis tenu de l'en informer immédiatement, en frappant 3 fois. Le premier signal, 5 coups, veut donc dire « Agrafena Alexandrovna est arrivée ». Le second trois coups signifie « affaire urgente ». Il m'en a fait la démonstration plusieurs fois. Et comme personne au monde ne connaît ses signes, excepté lui et moi, il m'ouvrira sans hésiter ni appeler. Il craint fort de faire du bruit. Or, Dmitri Fiodorovitch est au courant de ces signaux.
Pourquoi ? C'est toi qui les as transmis ? Comment as-tu osé ?
J'avais peur. Pouvais-je garder le secret ? Dmitri Fiodorovitch insistait chaque jour. Tu me trompes, tu me caches quelque chose. Je te romprai les jambes. J'ai parlé pour lui prouver ma soumission et le persuader que je ne le trompe pas, bien au contraire. Eh bien, si tu penses qu'il veut entrer au moyen de ce signal, empêche-le. Et si j'ai ma crise, comment l'en empêcherai-je en admettant que je l'ose? Il est si violent. Que le diable t'emporte! Pourquoi es-tu si sûr d'avoir une crise demain? Tu te moques de moi. Je ne me le permettrai pas. D'ailleurs, ce n'est pas le moment de rire. Je pressens que j'aurai une crise, rien que la peur la provoquera. Si tu es couché, c'est Grigori qui veillera. Préviens-le, il l'empêchera d'entrer. Je n'ose pas révéler les signaux à Grigori Vassilievitch sans la permission de monsieur. D'ailleurs, Grigori Vassilievitch est souffrant depuis hier, et Martinatievna se prépare à le soigner. C'est fort curieux. Elle connaît et tient en réserve une infusion très forte, faite avec une certaine herbe. C'est un secret. Trois fois par an, elle donne ce remède à Grigori Vassilievitch, quand il a son lumbago et qu'il est comme paralysé. Elle prend une serviette imbibée de cette liqueur et lui en frotte le dos une demi-heure, jusqu'à ce qu'il ait la peau rougie et même enflée. Puis elle lui donne à boire le reste du flacon en récitant une prière. Elle en prend elle-même un peu. Tous deux, n'ayant pas l'habitude de boire, tombent sur place et s'endorment d'un profond sommeil qui dure longtemps. Au réveil, Grigori Vassilievitch est presque toujours guéri, tandis que sa femme a la migraine. De sorte que, si demain Martinatievna met son projet à exécution, ils n'entendront guère Dmitri Fiodorovitch et le laisseront entrer. Ils dormiront. Tu radotes, tout s'arrangera comme exprès. Toi, tu auras ta crise, les autres seront endormis. C'est à croire que tu as des intentions, s'exclama Ivan Fiodorovitch en fronçant le sourcil. Comment pourrais-je arranger tout cela? Et à quoi bon, alors que tout dépend uniquement de Dmitri Fiodorovitch? S'il veut agir, il agira. Sinon, je n'irai pas le chercher pour le pousser chez son père. Mais pourquoi viendrait-il? Et en cachette encore, si Agrafena Alexandrovna ne vient pas, comme tu le dis toi-même? Poursuivit Ivan Fiodorovitch, pâle de colère. Moi aussi, j'ai toujours pensé que c'était une fantaisie du vieux, que jamais cette créature ne viendrait chez lui. Pourquoi donc Dmitri forcerait-il la porte? Parle, je veux connaître ta pensée.
Vous savez vous-même pourquoi il viendra. Que vous importe ce que je pense? Il viendra par animosité ou par défiance. Si je suis malade, par exemple, il aura des doutes et voudra explorer lui-même l'appartement, comme hier soir, voir si elle ne serait pas entrée à son insu. Il sait aussi que Fiodor Pavlovitch a préparé une grande enveloppe contenant 3 000 roubles, scellée de 3 cachets et nouée d'un ruban. Il a écrit de sa propre main « Pour mon ange Grushenka, si elle veut venir ». 3 jours après, il a ajouté « Pour ma poulette ».
« Quelle absurdité !» s'écria Ivan Fiodorovitch hors de lui. « Dmitri n'ira pas voler de l'argent et tuer son père en même temps. Hier, il aurait pu le tuer comme un fou furieux à cause de Grushenka. Mais il n'ira pas voler. »
Il a un extrême besoin d'argent, Ivan Fiodorovitch. Vous ne pouvez même pas vous en faire une idée. » expliqua Smerdiakov avec un grand calme et très nettement. D'ailleurs, il estime que ces 3 000 roubles lui appartiennent et m'a déclaré « Mon père me redoit juste 3 000 roubles ». De plus, Ivan Fiodorovitch, considérez ceci. Il est presque sûr qu'Agrafena Alexandrovna, si elle le veut bien, obligera Fiodor Pavlovitch à l'épouser. Je dis comme ça qu'elle ne viendra pas, mais peut-être voudra-t-elle davantage, c'est-à-dire devenir une dame. Je sais que son amant, le marchand Samsonov, lui a dit franchement que ce ne serait pas une mauvaise affaire.
elle-même n'est pas sotte. Elle n'a aucune raison d'épouser un gueux comme Dmitri Fiodorovitch.
Dans ce cas, Ivan Fiodorovitch, vous pensez bien que ni vous ni vos frères n'hériterez de votre père. Pas un rouble. Car si Agrafena Alexandrovna l'épouse, c'est pour mettre tout à son nom. Que votre père meure maintenant, vous recevrez chacun 40 000 roubles. Même Dmitri Fiodorovitch, qu'il déteste tant, car son testament n'est pas encore fait. Dmitri Fiodorovitch est au courant de tout cela.
Les traits d'Ivan se contractèrent, il rougit.
« Pourquoi donc, interrompit-il brusquement, me conseillais-tu de partir à Tchermachnia? Qu'entendais-tu par là? Après mon départ, il arrivera ici quelque chose. »
Il haletait.
« Tout juste, dit posément Smerdiakov, tout en fixant Ivan Fiodorovitch.
« Comment, tout juste ? »
répéta Ivan Fiodorovitch, tâchant de se contenir, le regard menaçant.
« J'ai dit cela par pitié pour vous. À votre place, je lâcherai tout, pour m'écarter d'une mauvaise affaire. »
répliqua Smerdiakov d'un air dégagé. Tous deux se turent.
« Tu m'as l'air d'un fameux imbécile et d'un parfait gredin. »
Ivan Fiodorovitch se leva d'un bond. Il voulait franchir la petite porte, mais s'arrêta et revint vers Smerdiakov. Alors il se passa quelque chose d'étrange. Ivan Fiodorovitch se mordit les lèvres, serra les poings et faillit se jeter sur Smerdiakov. L'autre s'en aperçut à temps, frissonna, se rejeta en arrière. Mais rien de fâcheux n'arriva. Et Ivan Fiodorovitch, silencieux et perplexe, se dirigea vers la porte.
« Je pars demain pour Moscou, si tu veux le savoir. Demain matin. Voilà tout »
cria-t-il hargneusement, surpris après coup d'avoir pu dire cela à Smerdiakov.
« C'est parfait !» répliqua l'autre comme s'il s'y attendait.
« Seulement, on pourrait vous télégraphier à Moscou s'il arrivait quelque chose. »
Ivan Fiodorovitch se retourna de nouveau, mais un changement subit s'était opéré en Smerdiakov. Sa familiarité nonchalante avait disparu. Tout son visage exprimait une attention et une attente extrêmes, bien que timides et serviles.
« N'ajouteras-tu rien ? » lisait-on dans son regard, fixé sur Ivan Fiodorovitch.
« Est-ce qu'on ne me rappellerait pas aussi de Tchermachnia, s'il arrivait quelque chose ?»
s'écria Ivan Fiodorovitch, élevant la voix sans savoir pourquoi.
« À Tchermachnia aussi, on vous avisera !»
murmura Smerdiakov à voix basse, sans cesser de regarder Ivan dans les yeux.
« Seulement, Moscou est loin, Tchermachnia est près. Regrettes-tu les frais du voyage, que tu insistes pour Tchermachnia, ou me plains-tu d'avoir à faire un grand détour ?»«
Tout juste !» murmura Smerdiakov d'une voix mal assurée et avec un sourire vil, s'apprêtant de nouveau à bondir en arrière. Mais, à sa grande surprise, Ivan Fiodorovitch éclata de rire. La porte passée, il riait encore. Qui l'eût observé en cet instant n'aurait pas attribué ce rire à la gaieté. Lui-même n'aurait pu expliquer ce qu'il éprouvait. Il marchait machinalement.
Chapitre 7. Il y a plaisir à causer avec un homme d'esprit.
Il parlait d'eux-mêmes. Rencontrant Fiodor Pavlovitch au salon, il lui cria en gesticulant « Je monte chez moi, je n'entre pas chez vous. Au revoir !» Et il passa en évitant de regarder son père. Sans doute, son dégoût pour le vieux l'emporta en cet instant. Mais cette animosité manifestée avec un tel sans-gêne surprit Fiodor Pavlovitch lui-même. Il avait évidemment quelque chose de pressé à dire à son fils et était venu à sa rencontre dans cette intention. À ce gracieux accueil, il se tut et le suivit d'un regard ironique jusqu'à ce qu'il eût disparu.
« Qu'a-t-il donc ? » demanda-t-il à Smerdiakov qui survenait.
« Il est fâché, Dieu sait pourquoi !» répondit évasivement Smerdiakov.
« Oh, diable, ça bouderie ! Dépêche-toi de donner le samovar et va-t'en. Rien de nouveau ?
Ce furent alors les questions dont Smerdiakov venait de se plaindre à Ivan Fiodorovitch concernant la visiteuse attendue, et nous les passons sous silence. Une demi-heure après, la maison était close, et le vieux toquet se mit à marcher, de long en large, le cœur palpitant, attendant le signal convenu. Parfois, il regardait les fenêtres sombres, mais il ne voyait que la nuit. Il était déjà fort tard, et Ivan Fiodorovitch ne dormait pas. Il méditait, et ne se coucha qu'à 2 heures. Nous n'exposerons pas le cours de ses pensées. Le moment n'est pas venu d'entrer dans cette âme. Elle aura son tour. La tâche sera d'ailleurs malaisée, car ce n'était pas des pensées qui le harcelaient, mais une sorte d'agitation vague. Lui-même sentait qu'il perdait pied. Des désirs étranges le tourmentaient. Ainsi, après minuit, il éprouva une envie irrésistible de descendre, d'ouvrir la porte et d'aller dans le pavillon rosser Smerdiakov. Mais si on lui avait demandé pourquoi, il n'aurait pas pu indiquer un seul motif, sauf peut-être que ce faquin lui était devenu odieux, comme le pire offenseur qui exista. D'autre part, une timidité inexplicable, humiliante, l'envahit à plusieurs reprises, paralysant ses forces physiques. La tête lui tournait. Une sensation de haine l'aiguillonnait, un désir de se venger de quelqu'un. Il haïssait même Alyosha en se rappelant leur récente conversation. Et par instant, il se détestait lui-même. Il avait oublié Catherine Ivanovna et s'en étonna par la suite, se rappelant que la veille, lorsqu'il se vantait devant elle de partir le lendemain pour Moscou, il se disait à lui-même « C'est absurde, tu ne partiras pas et tu ne romperas pas si facilement, fanfaron !» Longtemps après, Ivan Fiodorovitch se souvint avec répulsion que cette nuit-là, il allait doucement, comme s'il craignait d'être aperçu, ouvrir la porte, sortait sur le palier et écoutait son père aller et venir au rez-de-chaussée. Il écoutait longtemps, avec une bizarre curiosité, retenant son souffle et le cœur battant. Lui-même ignorait pourquoi il agissait ainsi. Toute sa vie, il traita ce procédé d'indigne, le considérant au fond de son âme comme le plus vil qu'il eût à se reprocher. Il n'éprouvait alors aucune haine pour Fiodor Pavlovitch, mais seulement une curiosité intense. Que pouvait-il bien faire en bas? Il le voyait regardant les fenêtres sombres, s'arrêtant soudain au milieu de la chambre pour écouter si l'on ne frappait pas. 2 fois, Ivan Fiodorovitch sortit ainsi sur le palier. Vers 2 heures, quand tout fut calme, il se coucha, avide de sommeil, car il se sentait exténué. En vérité, il s'endormit profondément, sans rêve, et quand il se réveilla, il faisait déjà jour. En ouvrant les yeux, il fut surpris de se sentir une énergie extraordinaire, se leva, s'habilla rapidement et se mit à faire sa malle. Justement, la blanchisseuse lui avait rapporté son linge, et il souriait en pensant que rien ne s'opposait à son brusque départ. Il était brusque, en effet. Bien qu'Ivan Fiodorovitch eût déclaré la veille à Catherine Ivanovna, à Alyosha, à Smerdiakov, qu'il partait le lendemain pour Moscou, il se rappelait qu'en se mettant au lit, il ne pensait pas à partir. Du moins, il ne se doutait pas qu'en se réveillant, il commencerait par faire sa malle. Enfin, elle fut prête, ainsi que son sac de voyage. Il était déjà 9 heures, lorsque Marthe Ignatievna vint lui demander, comme d'habitude, « Prendrez-vous le thé chez vous ou descendrez-vous ? » Il descendit presque gai, bien que ses paroles et ses gestes trahissent une certaine agitation. Il salua affablement son père, s'informa même de sa santé, mais sans attendre sa réponse. Lui déclara qu'il partait dans 1 heure pour Moscou, et pria qu'on commandât des chevaux. Le vieillard l'écouta sans le moindre étonnement, négligea même de prendre par convenance un air affligé. En revanche, il se trémoussa, se rappelant fort à propos une affaire importante pour lui. « Ah, comme tu es bizarre, tu ne m'as rien dit hier. » « N'importe, il n'est pas trop tard. Fais-moi un grand plaisir, mon cher. passe par Tchermachnia. Tu n'as qu'à tourner à gauche à la station de Volovia. Une douzaine de verstes au plus, et tu y es.
Excusez, je ne puis. Il y a 80 verstes jusqu'à la station. Le train de Moscou part à 7 heures du soir. J'ai juste le temps.
Tu as bien le temps de regagner Moscou. Aujourd'hui, va à Tchermachnia. Qu'est-ce que ça te coûte de tranquilliser ton père?
Si je n'étais pas occupée, j'y serais allée moi-même depuis longtemps, car l'affaire est urgente. Mais ce n'est pas le moment de m'absenter. Vois-tu, je possède des bois, en 2 lots, à Bekichev et à Diatchino, dans les Landes. Les Maslov, père et fils, des marchands, n'offrent que 8 000 roubles pour la coupe. L'année dernière, il s'est présenté un acheteur, il en donnait 12 000. Mais il n'est pas d'ici, note bien, car il n'y a pas preneur chez les gens d'ici. Les Maslov, qui ont des centaines de 1 000 roubles, font la loi. Il faut accepter leurs conditions. Personne n'ose enchérir sur eux. Or, le père Ilinski m'a signalé jeudi dernier l'arrivée de Gorskin, un autre marchand. Je le connais. Il a l'avantage de n'être pas d'ici, mais de Pogrebov. Il ne craint donc pas les Maslov. Il offre 11 000 roubles, tu m'entends? Il ne restera là-bas qu'une semaine au plus, m'écrit le pope. Tu irais négocier l'affaire avec lui.
Écrivez donc au pope, il s'en chargera.
Il ne saura pas, voilà le hic, ce pope n'y entend rien. Il vaut son pesant d'or, je lui confierai 20 000 roubles sans reçu. Mais il n'a pas de flair, on dirait un enfant. Pourtant, c'est un érudit, figure-toi. Ce Gorskin a l'air d'un croquant. Il porte une blouse bleue, mais c'est un parfait coquin. Et par malheur, il ment, et parfois à tel point qu'on se demande pourquoi. Une fois, il a raconté que sa femme était morte et qu'il s'était remarié. Il n'y avait pas un mot de vrai. Sa femme est toujours là et le bat régulièrement. Il s'agit donc maintenant de savoir s'il est vraiment preneur à 11 000 roubles.
Mais moi non plus, je n'entends rien à ces sortes d'affaires.
Attends, tu t'en tireras. Je vais te donner son signalement à ce Gorskin. Il y a longtemps que je suis en relation d'affaires avec lui. Vois-tu, il faut regarder sa barbe, qu'il a rousse et vilaine. Quand elle s'agite et que lui-même se fâche en parlant, ça va bien. Il dit la vérité et veut conclure. Mais s'il caresse sa barbe de la main gauche en souriant, c'est qu'il veut vous rouler. Il triche. Inutile de regarder ses yeux, c'est de l'eau trouble. Regarde sa barbe. Son vrai nom n'est pas Gorskin, mais Liagavi. Seulement, ne l'appelle pas Liagavi, il s'offenserait. Si tu vois que l'affaire s'arrange, écris-moi un mot. Maintiens le prix de 11 000 roubles. Tu peux baisser de 1 000, mais pas davantage. Pense donc, 8 et 11, cela fait 3 000 de différence. C'est pour moi de l'argent trouvé, et j'en ai extrêmement besoin. Si tu m'annonces que c'est sérieux, je trouverai bien le temps d'y aller et de terminer. À quoi bon me déplacer maintenant, si le pape se trompe? Eh bien, iras-tu ou non?
Eh, je n'ai pas le temps, dispensez-moi.
Rends ce service à ton père, je m'en souviendrai. Vous êtes tous des sans-cœur. Qu'est-ce pour toi qu'un jour ou deux? Où vas-tu maintenant? À Venise? Elle ne va pas s'écrouler, ta Venise. J'aurais bien envoyé Alyosha, mais est-ce qu'il s'y connaît? Tandis que toi, tu es malin, je le vois bien. Tu n'es pas marchand de bois, mais tu as des yeux. Il s'agit de voir si cet homme parle sérieusement ou non. Je le répète, regarde sa barbe. Si elle remue, c'est sérieux.
Alors, vous me poussez vous-même à cette maudite Tchermachnia,
s'écria Ivan avec un mauvais sourire. Fiodor Pavlovitch ne remarqua pas, ou ne voulut pas remarquer, la méchanceté, et ne retint que le sourire.
« Ainsi, tu y vas, je vais te donner un billet. »«
Je ne sais pas, je déciderai cela en route. »«
Pourquoi en route? Décide maintenant. L'affaire réglée, écris-moi 2 lignes, remets-les au pope, qui me fera parvenir ton billet. » Après quoi, tu seras libre de partir pour Venise. Le pape te conduira en voiture à la station de Volovia.
Le vieillard exultait. Il écrivit un mot,
on envoya chercher une voiture, on servit un petit déjeuner, du cognac. La joie le rendait ordinairement expansif, mais cette fois, il semblait se contenir. Pas un mot au sujet de Dmitri. Nullement affecté par la séparation, il ne trouvait rien à dire. Ivan Fiodorovitch en fut frappé. « Je l'ennuyais, » pensait-il. En accompagnant son fils, le vieux s'agita, comme s'il voulait l'embrasser. Mais Ivan Fiodorovitch s'empressa de lui tendre la main, visiblement désireux d'éviter le baiser. Il comprit aussitôt et s'arrêta. « Dieu te garde !» répéta-t-il du perron. « Tu reviendras bien une fois. Cela me fera toujours plaisir de te voir. Que le Christ soit avec toi !» Ivan Fiodorovitch monta dans le tarantas. « Adieu, Ivan, ne m'en veuille pas !» lui cria une dernière fois son père. Les domestiques, Smerdiakov, Marthe, Grigori, étaient venus lui faire leurs adieux. Ivan leur donna à chacun 10 roubles. Smerdiakov accourut pour arranger le tapis. « Tu vois, je vais à Tchermachnia !» laissa tout à coup échapper Ivan, comme malgré lui et avec un rire nerveux. Il se le rappela longtemps ensuite. « C'est donc vrai ce qu'on dit? Il y a plaisir à causer avec un homme d'esprit !» répliqua Smerdiakov avec un regard pénétrant. Le tarantas partit au galop. Le voyageur était préoccupé, mais il regardait avidement les champs, les coteaux, une bande d'oies sauvages qui volaient haut dans le ciel clair. Tout à coup, il éprouva une sensation de bien-être. Il essaya de causer avec le voiturier et s'intéressa fort à une réponse du moujik. Mais bientôt, il se rendit compte que son esprit était ailleurs. Il se tut, respirant avec délice l'air pur et frais. Le souvenir d'Alyosha et de Catherine Ivanovna lui traversa l'esprit. Il sourit doucement, souffla sur ses chers fantômes, et ils s'évanouirent. « Plus tard, » pensa-t-il. On atteignit vivement le relais. On remplaça les chevaux pour se diriger sur Volovia. Pourquoi y a-t-il plaisir à causer avec un homme d'esprit? Qu'entendait-il par là? Se demanda-t-il soudain. Pourquoi lui ai-je dit que j'allais à Tchermachnia? Arrivé à la station de Volovia, Ivan descendit, les voituriers l'entourèrent. Il fit le prix pour Tchermachnia, 12 verstes par un chemin vicinal. Il ordonna d'atteler, entra dans le local, regarda la préposée, ressortit sur le perron. « Je ne vais pas à Tchermachnia. Ai-je le temps, les gars, d'arriver à 7 heures à la gare ?»«
À votre service, faut-il atteler ?»«
À l'instant même. Est-ce que l'un de vous va demain à la ville ?»«
Oui, Dmitri y va. »«
Pourrais-tu, Dmitri, me rendre un service ? Va chez mon père, Fiodor Pavlovitch Karamazov. » Et dis-lui que je ne suis pas allé à Tchermachnia.
Pourquoi pas? Nous connaissons Fiodor Pavlovitch depuis longtemps.
Tiens, voici un pourboire, car il ne faut pas compter sur lui, dit gaiement Ivan Fiodorovitch.
C'est bien vrai, fit Dmitri en riant. Merci, monsieur, je ferai votre commission.
À 7 heures du soir, Ivan monta dans le train de Moscou.
Arrière tout le passé, c'est fini pour toujours, que je n'en entende plus parler. Vers un nouveau monde, vers de nouvelles terres, sans regarder en arrière.
Mais soudain, son âme s'assombrit, et une tristesse telle qu'il n'en avait jamais ressentie lui étreignit le cœur. Il médita toute la nuit. Le matin seulement, en arrivant à Moscou, il se ressaisit.
« Je suis un misérable !» se dit-il.
Après le départ de son fils, Fiodor Pavlovitch se sentit le cœur léger. Pendant 2 heures, il fut presque heureux, le cognac aidant, lorsque survint un incident fâcheux qui le consterna. Smerdiakov, en se rendant à la cave, dégringola de la première marche de l'escalier. Marthe Ignatievna, qui se trouvait dans la cour, ne vit pas la chute, mais entendit son cri. Le cri bizarre de l'épileptique en proie à une crise, elle le connaissait bien. Avait-il eu une attaque en descendant les marches, qui l'avait fait rouler jusqu'en bas sans connaissance? ou bien était-ce la chute et la commotion qu'il avait provoquée? On n'en savait rien. Toujours est-il qu'on le trouva au fond de la cave, se tordant dans d'horribles convulsions, l'écume aux lèvres. D'abord, on crut qu'il s'était contusionné, fracturé un membre, mais le Seigneur l'avait préservé, suivant l'expression de Martyniatievna. Il était indemne. Pourtant, ce fut toute une affaire de le remonter. On y parvint avec l'aide des voisins. Fiodor Pavlovitch, qui assistait à l'opération, donna un coup de main. Il était bouleversé. Le malade demeurait sans connaissance. La crise, qui avait cessé, recommença. On en conclut que les choses se passeraient comme l'année précédente, lorsqu'il était tombé du grenier. On lui avait alors mis de la glace sur le crâne. Il en restait dans la cave que Martyniatievna utilisa. Vers le soir, Fiodor Pavlovitch envoya chercher le docteur Herzenstub, qui arriva aussitôt. Après avoir examiné attentivement le malade, c'était le médecin le plus méticuleux du gouvernement, un petit vieux respectable. Il conclut que c'était une crise extraordinaire, pouvant amener des complications, que pour le moment il ne comprenait pas bien, mais que le lendemain matin, si les remèdes prescrits n'avaient pas agi, il tenterait un autre traitement. On coucha le malade dans le pavillon, dans une petite chambre attenante à celle de Grigori. Ensuite, Fiodor Pavlovitch n'eut que des désagréments. Le potage préparé par Martyniatievna était de l'eau de vaisselle, à côté de l'ordinaire. La poule, desséchée, immangeable. Aux amers reproches, d'ailleurs justifiés, de son maître, la bonne femme répliqua que c'était une vieille poule et qu'elle-même n'était pas cuisinière de profession. Dans la soirée, autre tracas. Fiodor Pavlovitch apprit que Grigori, souffrant depuis l'avant-veille, s'était alité en proie au lumbago. Il se hâta de prendre le thé et s'enferma, extrêmement agité. C'était ce soir qu'il attendait, presque à coup sûr, la visite Krushenka. Du moins, Smerdiakov lui avait assuré le matin même qu'elle avait promis de venir. Le cœur de l'incorrigible vieillard battait violemment. Il allait et venait dans les chambres vides en prêtant l'oreille. Il fallait être aux aguets. Peut-être Dmitri l'épiait-il aux alentours. Et dès qu'elle frapperait à la fenêtre, Smerdiakov affirmait qu'elle connaissait le signal. Il faudrait lui ouvrir aussitôt, ne pas la retenir dans le vestibule, de peur qu'elle ne s'effrayât et ne prît la fuite. Fiodor Pavlovitch était tracassé. Mais jamais plus douce espérance n'avait bercé son cœur. Il était presque sûr que cette fois-ci, elle viendrait.